9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
En ce samedi 17 septembre 2022, Maître Serran vous salue, camarades auditrices et auditeurs, que vous soyez encore dans votre lit à vous prélasser, voire même pour les plus ranzen d'entre vous à prendre le café au lit, que vous soyez sur le point d'aller au marché ou que vous soyez tout simplement au boulot. Nous allons parler durant une heure de droit et rien que de droit, une heure au cours de laquelle vous aurez la possibilité de poser les questions sur des sujets qui vous turlupinent. Mais ouf, avant d'entrer...
Quel mot compliqué, hein, j'ai eu peur maintenant.
Non, qui vous turlupine.
Voilà. Mais c'est pas un mot facile. Hein.
Je sais bien.
À 9h du matin,
on
turlupine pas.
Mais je travaille sur mes textes.
Je vois. Hein.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, petit récapitulatif de l'actualité de la semaine, dominée encore et encore par le décès de notre reine Elisabeth. Oui, notre reine, mon cher Philippe, car la France est en deuil, ou devrais-je dire les JT sont en deuil. On est manifestement plus royaliste que le roi, pour ne pas dire la reine, dans ce pays. Tous les jours, à toute heure, des directs, on nous compte seconde par seconde le déroulement des cérémonies qui n'en finissent plus. On a même vu le King Charles III se comportait d'ailleurs vraiment comme un roi à l'égard de son personnel, avec ce côté méprisant. Et quand un type a ce côté méprisant alors qu'il se sait filmer, on peut aisément imaginer son comportement hors caméra. Mais qu'on lui coupe la tête à ce type-là sur la place publique, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est la politique qui devrait être adoptée à l'égard de tous les rois. Au nom de quoi? C'est le fils du roi ou de la reine qui doit pouvoir accéder au pouvoir, et ce même si les descendants sont des tocards. Bon, tu me diras, il y a des pays où les élections sont tellement truquées que le président élu se comporte comme un monarque. En fait, il n'y a pas de système idéal, mon cher Philippe, si ce n'est peut-être le système russe. Alors je sais, mon cher Philippe, qu'il ne fait pas bon parler en bien de la Russie en ce moment pour espérer être apprécié tant par l'Europe et les États-Unis. Il faudrait lécher les burnes de l'Ukraine. En Russie, on n'a jamais vu le fils ou la fille de prendre le pouvoir. En Russie, on a une vraie démocratie. Alors certes, quelque peu musclée, mais un pays a besoin, selon la formule consacrée, d'une main de fer dans un gant de velours. Mais continuons dans la politique internationale pour évoquer un phénomène qui se multiplie au Liban, les braquages de banques par des personnes désespérées face à l'impossibilité de retirer leurs économies bloquées depuis 3 ans. Eh bien, ça, j'aime bien. Tu vois, tu auras remarqué que quelle que soit la situation économique d'un pays, les seuls qui ne perdent jamais d'argent sont les banques. Le pays peut être à genoux, les banques s'en sortent toujours. Quand les banques perdent de l'argent, c'est l'État qui vient les renflouer avec l'argent du peuple. Et quand les banques font des bénéfices, ce sont les associés qui se les partagent. C'est un bon job, en fait, banquier. J'aurais peut-être dû y penser, d'autant plus que tu peux travailler dans une grande banque et finir président. Dixit, Mr. Macron. Allez, que vous soyez banquier ou pas, vous êtes invité à nous contacter 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Et vous le savez, cette émission est toujours sous le contrôle impitoyable de monsieur Philippe Robichon. À vous.
Ah non, pour moi, ce matin, c'est pas de contrôle, c'est Tariq qui contrôle l'émission.
C'est vrai,
et alors
c'est
là, c'est hors de contrôle quand c'est Tariq
il est parmi nous aujourd'hui.
Et on est content. Vous êtes dans la merde, les gars. Ouais. Moi, je suis pas encore vraiment réveillé.
Alors, instant mode, Tariq, est-ce que tu trouves, toi aussi, que Maître Serran a la veste de Jean Dujardin dans un film qui s'appelle Le Dain?
C'est vrai, c'est vrai, très joli, petit col roulé, sympa, très classe, très très classe. On dirait un réalisateur américain.
Tu trouves?
Ouais, ça, j'aime bien.
C'est un petit réalisateur de séries américaines, c'est même voilà, ouais, d'un film américain sélectionné à Sundance, tu vois.
Ouais, Murad.
Murad, yeah.
Murad.
Mais il est plus gentil que vous, en fait.
Oui, je sais, mais bon.
Je constate ça.
Hein, mais parce qu'il est payé pour ça.
Ah bon?
Ouais. Mais Serran, elle sort d'où, votre veste?
En dame. Écoutez, c'est une veste qui date de longtemps. Il fut un temps où j'avais acheté 2 vestes le même jour. Hein, c'est-à-dire que soyons fous, une veste en cuir noir et une veste en daim que je mets régulièrement. Ça me rappelle plein de beaux souvenirs.
D'accord. Voilà. Mais quand on dit longtemps, c'est-à-dire?
Oh, il y a des années, honnêtement.
Mais genre 20 ans?
Ah oui, au moins. Ouais.
Ah ouais?
Ah oui, au moins. Ouais. Chevignon, je sais pas si cette marque existe encore.
Chevignon,
ça existe encore. Bon bah voilà.
Ah ouais, putain.
Ouais.
Elle date, hein.
Ah oui. Non mais c'est du temps où c'était la marque extraordinaire. Puis voilà, on s'y attache.
Il me semble que Starsky avait la même dans un épisode.
C'est possible.
C'est possible.
C'est possible. Ouais. D'ailleurs, j'ai revu des vieux Starsky Hutch. Et effectivement, maintenant que tu me le dis,
petite veste en tweed.
Ouais, c'est tout à fait possible.
Maître Serrane, vous revenez ce matin sur une décision de mars 2021 de la Cour de cassation qui était passée inaperçue à l'époque. Et je pense que c'est une femme qui avait demandé le divorce en Algérie à cette époque-là.
Oui, alors c'est une décision qui est passée inaperçue même par la grande majorité des avocats. Et d'ailleurs, dont je fais partie, c'est une décision qui est assez, assez particulière. Il faut savoir que pour les personnes de nationalité algérienne, de double nationalité, beaucoup ont pris cette habitude d'aller divorcer au pays. Alors ça peut sembler curieux, alors que certains sont même mariés sur le territoire français, ils ont tous leurs centres d'intérêt sur le territoire français, ils y habitent, ils travaillent, mais pour se séparer, on privilégie la juridiction algérienne. C'est un état d'esprit assez particulier, et on va divorcer en Algérie, pourquoi ? Très souvent, parce qu'on nous dit, écoutez, ça va aller plus vite, et très souvent, pendant les périodes de vacances scolaires, on me dit, maître, je pars en Algérie, et quand ils reviennent avec un jugement de divorce. Donc c'est vrai qu'au niveau timing, ça peut être intéressant de divorcer en Algérie. Sauf que, il se trouve que, jusqu'à présent, en tout cas, avant cette décision de la Cour de cassation, on a beaucoup de personnes, notamment des hommes, en grande majorité, qui allaient divorcer au pays par répudiation, qui venaient avec leur petit jugement. Et cette décision, il faut qu'elle soit applicable sur le territoire français. En droit, on dit exécutoire. Si vous êtes divorcé en Algérie et que votre décision ne s'applique pas sur le territoire français, ça ne présente aucun intérêt. On engage des procédures, on demande soit au procureur de la République de reconnaître l'existence légale de cette décision, soit vous faites ce qu'on appelle une exéquature, et là encore, le procureur de la République va vérifier dans quelles conditions vous avez divorcé au pays. Et on constatait quoi ? On constatait que c'était la volonté unilatérale de monsieur, que très souvent, madame n'était même pas informée de la procédure. Alors, le coup classique étant de demander à un huissier de justice du pays de convoquer madame, mais à une adresse du pays. Bon, alors que madame, encore une fois, demeure sur le territoire français. Et le procureur de la République considérait que c'était contre l'ordre public international, donc ça n'était pas applicable. Résultat, les personnes avaient un beau jugement de divorce au pays obtenu en 15 jours, mais qui n'y servait à rien, et ces personnes devaient également divorcer sur le territoire français. Et puis là, patatras, puisque une femme a engagé une procédure de divorce sur la base également de la répudiation, mais c'est une répudiation particulière.
Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs ce...
Alors, on parle de crawl.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est la répudiation par compensation. C'est-à-dire qu'il y a une compensation financière, contrairement à la réputation qui concerne la répudiation qui concerne les hommes. Et là, donc, cette femme a engagé une procédure d'exéquature pour dire, moi, j'ai un jugement de divorce prononcé sur la base d'une répudiation par compensation. Et la Cour de cassation, contre toute attente, on parle en droit d'un revirement de jurisprudence, contre toute attente, a considéré que cette répudiation par compensation était désormais recevable et reconnue sur le territoire français. Et cette femme donc a pu faire exéquaturer, c'est-à-dire transformer son jugement de divorce algérien en jugement de divorce français. En tout cas, on reconnaît que ce divorce est valable et donc elle va pouvoir donc le faire transcrire. C'est-à-dire ça va apparaître sur tous les actes d'état civil. Alors c'est assez surprenant.
Moi, je ne sais même pas qu'il y avait la répudiation pour les femmes. Pour vous dire.
Oui, alors, mais le principe d'égalité n'est pas respecté, puisque l'homme, on a une répudiation, on va dire, pure et simple, en gros, bon, dégage et on passe à autre chose. La femme, c'est une répudiation par compensation. C'est-à-dire, je vais acheter, entre guillemets, je vais presque dire, ma séparation ou ma liberté. Donc, il y a une compensation financière.
C'est donc elle qui a versé la prestation compensatoire.
Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on va monnayer sa séparation. J'ai pas de motif particulier, j'ai plus envie de... Et je vais mettre la main à la poche pour pouvoir me séparer. Alors que les autorités françaises ne reconnaissent pas cette répudiation pour l'homme. Il n'y a pas de répudiation par compensation. C'est une répudiation, on va dire, pure et simple. Les autorités françaises considèrent que ça ne peut pas passer. Pour la femme, répudiation par compensation, la plus haute juridiction. Donc c'est pas une décision anodine. La plus haute juridiction donc considère qu'effectivement, cette répudiation par compensation donc est recevable. Alors, c'est intéressant pour toutes les personnes qui souhaitaient divorcer au pays, sauf qu'en vérité, très souvent, Enfin, moi, je le vois parmi mes clients, c'est-à-dire que les femmes sont souvent opposées au divorce au pays. Elles partent du principe, alors parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas du tout, que les magistrats sont plus en faveur de monsieur, et notamment concernant le droit de visite et d'hébergement, concernant la garde de l'enfant. Donc, en règle générale, elles ne sont pas trop motivées pour engager des procédures au pays. Elles préfèrent divorcer sur le territoire français, contrairement, encore une fois, aux hommes. Donc, je ne sais pas si cette décision de la Cour de cassation va les motiver, peut-être, pour divorcer au pays, où le divorce est quand même plus rapide, ça il faut au moins le reconnaître. Mais encore une fois, voilà, alors il faut mettre la main à la poche, compte tenu du taux de change, même si vous mettez la main à la poche, c'est pas une somme extraordinaire.
Oui, mais vous voulez le faire expulser aussi d'une maison.
Oui.
C'est la même affaire dont vous parlez. Il y a aussi ce côté où elle voulait qu'il parte.
C'est la même affaire. Mais encore une fois, j'allais dire, quelle que soit la nature de l'affaire et les petits problèmes, on va dire, entre monsieur et madame, ce qui importe pour ces personnes-là, c'est la reconnaissance de cette décision sur le territoire français. Je le redis, on a croisé 1001 clients qui viennent avec leur beau jugement, mais c'est un jugement qui ne sert à rien. Donc là, ça ne concerne pas les hommes, cette répudiation, encore une fois. Ce que je disais en introduction reste toujours valable. Ça concerne les femmes qui engagent une procédure de divorce par répudiation, mais il y a une compensation financière. Voilà. Donc pour l'instant, cette jurisprudence, cette décision de la Cour de cassation ne changera pas concernant les hommes qui ont répudié leur femme au pays. Ceux qui viennent avec un jugement de répudiation, enfin les hommes qui viennent avec un jugement de répudiation, devront tout de même divorcer sur le territoire français, puisque ce jugement sera valable au pays, mais il ne sera pas valable sur le territoire français.
Alors ça fait jurisprudence, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres femmes qui ont suivi, ou c'est un cas unique?
Non, c'est pas un cas unique, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qui sont en cours. La règle étant que quand la plus haute juridiction, la Cour de cassation, donne une direction, en principe, les juridictions inférieures, donc les tribunaux judiciaires, les cours d'appel, doivent en principe se calquer sur cette jurisprudence. C'est-à-dire que, imaginons qu'une femme ait saisi un tribunal judiciaire, donc c'est le premier niveau de juridiction, et que ce premier tribunal dit, nous on veut pas. Si entre-temps, il y a une décision de la Cour de cassation, il suffirait en principe qu'elle fasse appel pour que la Cour d'appel dise, désormais, voici les nouvelles règles. Donc en principe, c'est ça. Mais il existe quand même des juridictions qui, entre guillemets, résistent à la plus haute juridiction du territoire français. Donc il y a des batailles comme ça de jurisprudence. Mais si on respecte la hiérarchie en la matière, c'est la Cour de cassation qui donne le là. Et si elle décide que ce type de divorce est désormais accepté et acceptable, tout le monde devrait se plier à ça. Donc on va voir un peu dans les mois ou les années qui viennent.
Après cette chronique, voilà. On va voir si au cabinet, vous voyez Maître Serran.
On va voir si des femmes veulent en tout cas faire reconnaître leur jugement de divorce par répudiation. Avec une compensation, encore une fois, financière, et si elles veulent faire exécuter. Alors ça ne s'arrête pas juste là, si on ne vient pas avec son beau jugement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre beau jugement algérien, il faut saisir une autre juridiction, donc le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile, pour faire exéquaturer, donc c'est un petit peu barbare, donc c'est pour faire reconnaître la force exécutoire de ce jugement sur le territoire français.
Est-ce qu'on sait combien ça a coûté? On a une idée?
Combien ça a coûté
de ce qu'elle a payé
Non, j'ai pas le détail sur le montant de la compensation, mais bon, c'est en dinars, donc on peut s'en sortir facilement quand même. On est d'accord, c'est pas la monnaie avec le taux le plus élevé par rapport à l'euro.
Ah bah l'euro en ce moment, c'est plus que c'était, etc.
Mais même à ce niveau-là, c'est toujours intéressant, de prendre des dinars. Bon. Enfin, c'est un secret pour personne. Enfin, moi, je le vois même au cabinet.
Est-ce que vous êtes payé en dinars, M. Serran?
Je jure que c'est vrai. J'en ai parfois qui me disent, écoutez, je peux vous payer, au pays. Non, tu rigoles ou quoi? Pour faire quoi?
En trois fois.
Non, mais sérieux. Ça n'a pas de sens. Voilà, si tu veux, je tapisse mes murs à la limite. Mais qu'est-ce que je fasse avec des billets fatigants? D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Les billets, alors, mais pas que algériens, c'est-à-dire les billets des pays du Maghreb sont fatigués. Mais le papier, il est même pas beau à toucher, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait des vieux chiffons. Je sais pas pourquoi il y a un manque de respect à l'égard de la monnaie nationale.
Et alors, est-ce qu'avec la pénurie, on peut vous payer en huile d'olive, par exemple?
Non, on peut me rajouter de l'huile d'olive si vous voulez faire un petit geste sympathique. Vous savez, on voit ça dans la petite maison dans la prairie où il y a le docteur Baker qui est payé avec des œufs, des poules, voilà, et tout ça. Le pauvre, c'est-à-dire que pendant toute la série qui a duré 50 ans, le type, il n'a pas touché un dollar. Eh ben, moi, on peut me rajouter, si vous voulez, de l'huile d'olive. D'ailleurs, vous avez raison, j'ai un client une fois qui m'a payé avec des œufs. Enfin, il m'a payé, il a rajouté des œufs, il avait plein de poules. Mais voilà, hein,
sinon, avec les temps qui arrivent, méfiez-vous, hein, ça peut être utile.
Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, mais pour l'instant, on va privilégier l'euro. Ça reste pour l'instant une monnaie sûre, même si effectivement, au niveau mondial, le cours a baissé.
Maître Serran, en direct désormais le samedi sur Beurre FM, 9h, 10h, et vous l'interrogez, vous posez vos questions juridiques au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran, désormais, le samedi, tous les samedis entre 9h et 10h. Il y en a qui vous découvrent, Maître Serran.
Ah oui.
Qui disent, tiens, on a un magnifique avocat tous les samedis en direct sur Beurre FM.
Alors qu'il fut un temps, je le rappelle régulièrement,
où vous étiez jeune et fringant.
Ouais, et on officiait le samedi, c'était surtout ça que je voulais dire.
On a démarré le samedi, en fait.
Ouais.
En 76.
Ouais, c'est ça, 76-77.
77.
Ouais. Quand on revient le week-end, c'est jamais bon signe.
Ah oui, mais on est en direct, nous. On pourrait être enregistré.
C'est vrai. Vous êtes à l'antenne. Voilà. Vous avez de la chance.
Voilà, tu vois.
Parce que moi, cette année, je vais pas enquête. Hein.
C'est vrai.
Mais c'est pas enquête pour moi cette année.
Mais je me demande si tu l'as pas mérité un peu.
Si, j'avoue.
Est-ce que tu l'as cherché?
Je l'ai cherché. Ouais,
ouais, tu vois.
Excusez-moi d'avoir une petite carrière à côté. Désolé.
Non, mais c'est trop tard.
Pardon.
C'est trop tard. Toi, tu finiras avec Vanessa.
Ouais, c'est sûr, avec un César sur cette table. Mais bon, c'est la vie,
comme ça.
Je finirai avec Vanessa en co-animation, j'espère.
Il a raison, faut toujours préciser.
Mais préciser l'âge de ma rhum.
Ouais. Voire plus. Mais c'est vrai.
Mais ça va pas, non?
Non.
Les deux, là.
Non, mais c'est vrai. Attendez, vous devez finir avec Vanessa.
Sabrina a peut-être une question à poser à Maître Serran. Sabrina, bienvenue.
Oui, bonjour à tous, bonjour à vous déjà Philippe, merci pour votre émission, bonjour à Maître Serran,
que
je connais très très bien en personne, j'ai déjà été dans son cabinet.
Ah, j'ai eu peur.
Donc, non, pas du tout.
C'est filtré, il y a les histoires de fesses avec moi, c'est injouable. Donc, c'est Tara qui nous lance sur ce terrain-là.
Non, mais j'ai eu peur quand elle a dit, je le connais très 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 bien, je dis, oulala, on va partir.
Oui,
sur,
j'ai une affaire.
Balance ton avocat.
Elle a eu une affaire avec vous.
D'accord.
Voilà, non, mais parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Maître Serran, donc moi, c'était juste pour expliquer que j'ai déjà eu traité un problème, donc franchement il m'a aidé et tout, et là ce matin je voulais juste vous dire franchement bravo pour le sujet que vous venez de soulever, le divorce en Algérie. Ça c'est affreux ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si les autorités algériennes franchement ils peuvent faire quelque chose, parce que je connais une personne que malheureusement elle a été divorcée en Algérie pendant un an et elle n'était même pas au courant. C'est-à-dire que son mari, pour elle, son mari, parce que voilà, il vivait encore avec elle, il faisait des allers-retours, et elle ne savait même pas. C'était par coïncidence.
Alors, vous savez, c'est sincèrement, comme dirait, il ne s'agit pas de défendre les autorités algériennes juste pour les défendre, mais les autorités algériennes n'y sont pour rien. C'est-à-dire que la loi est claire. Je veux engager une procédure de divorce au pays, je demande à un huissier de débarquer à mon adresse au pays. C'est-à-dire que monsieur n'est pas fou, il ne le fait pas alors que madame est...
Madame, elle ne vivait pas avec lui.
Non, mais vous savez, c'est la même procédure sur le territoire français. C'est-à-dire que si vous vivez avec votre mari et que pour une raison X ou Y, il décide ou vous décidez de partir, l'huissier, vous allez lui demander d'aller à la dernière adresse connue. Donc c'est vrai que voilà, même sur le territoire français, ce type de situation, alors pénible, puisqu'on apprend qu'on a été divorcé, j'allais presque dire en cachette, c'est pas spécifique à l'Algérie.
Mais on peut dire on a été divorcé, parce que c'est quand on entend ça, on a été divorcé, ça veut dire on a été divorcé contre son avis.
Oui, contre.
Exactement.
Mais il y a une règle. C'est-à-dire que vous allez me donner l'adresse du domicile conjugal. Moi, huissier de justice, je débarque à cette adresse. Si je dis. Voilà. Non, mais il y a forcément un domicile. Enfin, que a priori.
Il y a un domicile. Oui, ouais. Mais la dame ne résidait même pas.
Ah non, mais ça je l'entends. Ça je l'entends. Il y a pas de difficulté. C'est-à-dire que, en gros, le juge, il va pas mener une enquête pour vérifier si cette femme a bien résidé de manière effective. C'est-à-dire, est-ce qu'elle y était vraiment? Le mari dit simplement, écoutez, notre adresse, c'est tel endroit, telle rue, telle ville. C'est inscrit sur la requête en divorce. L'huissier va délivrer son petit document.
On appelle ça une signification. Passage,
ah non, mais bien sûr, c'est exactement ça. Donc, et puis l'huissier, s'il n'y a personne, il laisse un petit papier et on en reste là. C'est-à-dire que monsieur doit justifier auprès du juge, mais il n'a que ça à faire en disant, attendez, moi j'ai fait le nécessaire, j'ai demandé à un huissier de débarquer. Après, que madame ne soit pas là, que madame ne soit pas assistée, c'est terrible ce que je vous dis là, c'est pas le problème du juge. Mais en vérité, c'est pas spécifique à l'Algérie. En France, on a parfois des procédures qui se passent comme ça, c'est-à-dire que, et très souvent d'ailleurs, c'est madame qui découvre ça, elle découvre qu'elle a été divorcée, puisqu'elle a quitté parfois le domicile conjugal, et puis monsieur a engagé la procédure en disant, bah, écoutez, moi je sais pas où elle est partie.
Ça, c'est quand, voilà, quand ils vivent ensemble, ils ont une seule adresse. Mais là, monsieur, c'est un retraité, il faisait ses allers-retours. Il avait un bien là-bas au Bled. Ouais. Elle était là. Elle travaillait.
J'entends bien.
Et tout,
donc, c'est souvent, malheureusement, la difficulté et le piège. C'est-à-dire que si vous avez un domicile au pays, il suffit de donner l'adresse du pays, voilà, pour dire on habite ici, monsieur et madame.
Voilà. Mais maître, juste pour vous dire que monsieur, il a mis la maison à son nom. Hein. C'est pas monsieur et madame. Mais quand il a voulu trafiquer la résidence, que comme quoi elle habitait avec lui, il a pu très bien faire.
Ah non, mais ça, c'est assez classique. Bon, d'abord, il faut savoir que ce jugement, alors certes, il est valable au pays.
Oui, finalement, il n'est pas en France. Mais pas en France.
Voilà, donc c'est vrai que.
Je voulais vous dire.
Voilà, donc c'est vrai que madame est quand même, en tout cas, à l'égard des autorités françaises, protégée par rapport à ça.
Exactement.
Maintenant, c'est vrai, c'est une décision qui est valable au pays.
C'est affreux comment ils peuvent trafiquer. Il a fait une résidence, comme moi, ça faisait plus que 6 mois qu'elle habitait dans son domicile, alors qu'elle n'a jamais été.
Ouais,
elle
mais
a
été ça, alors. Évidemment, quand on découvre ça, comme dit, ça peut faire mal et ça peut surprendre. Mais je ne suis pas, moi, pour ma part, plus surpris que ça. Je vous dis très souvent. Et souvent, ce sont les hommes qui, entre guillemets, s'amusent à ça. Ils partent au pays, ils reviennent avec une petite décision. Et même si on leur dit, vous savez, cette décision n'a pas de valeur sur le territoire français, bon, ce qu'ils veulent, c'est aussi être séparés au pays. Et ça, déjà, ça, entre guillemets, ça leur suffit.
Ouais, pour qu'ils ne partagent pas assez bien, c'est tout, hein. Ils sont malins.
C'est toujours une histoire de bien et d'argent.
C'est une histoire d'argent, exactement. C'est malheureux quand même. Hein. Franchement, on vit des années avec une personne, après on découvre ça, c'est malheureux. Bon, bref, je voulais juste vous féliciter par rapport à... Parce que vous avez soulevé ce problème qui se passe actuellement. C'est vraiment, on n'entend que ça en ce moment. Et puis voilà, donc maître, j'ai une question, si vous me permettez.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, j'ai un problème dernièrement. J'ai fait un accident de voiture que j'étais assurée avec une assurance, je ne cite pas le nom. j'étais au tiers. Et d'après, c'est vrai que c'était moins la faute parce que, voilà, la priorité à droite. Les feux tricolores ne fonctionnaient pas. Il y avait une voiture qui venait, donc elle m'a bien tapée. J'ai appelé mon assurance, bien sûr, ils ont envoyé l'assistance et ils ont récupéré mon véhicule. Et du coup, après moi, j'ai laissé l'affaire jusqu'à ce que je retourne à mon assurance pour voir par rapport à mon véhicule qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent même pas faire appeler un expert parce que j'étais assurée au tiers. Donc ils m'ont dit, vous attendez, on vous appelle, on va chercher votre véhicule, on ne sait pas où qu'il était, dans quelle fourrière, on vous rappelle. Après un mois et demi, ils ne m'ont pas rappelé, moi je suis retournée encore les voir, et ils m'ont dit, oui, on va vous rappeler. Donc ensuite, moi j'ai un problème en Algérie, mes parents étaient malades, j'étais obligée de partir. J'ai reçu apparemment un avis, enfin un courrier, pour qui m'explique que les frais de gardiennage, ils étaient à partir de 45 jours, c'était à ma charge. Moi, ce courrier, maître, j'ai jamais reçu. J'ai jamais reçu ce courrier. Après 4 mois, quand je suis retournée les voir, parce que le problème, ils me prélevaient toujours sur ma facture. J'avais la cotisation de l'assurance, ils l'ont pas arrêté. Donc quand je suis partie les voir, j'ai dit, pour leur dire, voilà, mon véhicule, il est accidenté, et c'est vous qui l'avez, moi vous continuez toujours à prélever tous les mois, il faut que j'arrête l'assurance. Ils m'ont dit, il faut y aller chez le Autodico, là où il y avait ma voiture, et vous récupérez, vous ramenez le papier pour la cession de véhicule, parce que je leur ai dit, j'ai pas les moyens, je ne peux pas récupérer ce véhicule. Eh bien, ma grande surprise, le garage, il m'a sorti une facture de presque 2000 euros des frais de gardiennage. Ils ne veulent plus entendre parler. Donc, ils m'ont dit, il faut voir avec votre assurance. Ils payent ça pour qu'on vous donne le fameux papier.
Vous savez, le garage n'est pas fautif. C'est-à-dire que le garage...
Non, il n'est pas fautif.
Ouais, le garage doit être payé. Alors, que ce soit par vous, qui soit payé par vous, par la compagnie d'assurance.
Bien sûr, le problème,
c'est plus votre compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des véhicules qui partent en fourrière. Il faut toujours, quasiment le jour même ou le lendemain, contacter sa compagnie d'assurance pour voir comment ça va se passer. Parce qu'en fonction de la nature de votre protection, que ce soit au tiers ou pas, évidemment, il y a toute une série de frais, et quand ils se multiplient, c'est pas négligeable, qui seront pas pris en charge par votre compagnie d'assurance. Donc il n'est pas certain que ce soit la compagnie d'assurance qui soit en tort. Leur tort, ce serait peut-être de ne pas vous avoir informé en temps et en heure.
Exactement. Oui. Moi, j'ai dit, vous m'avez envoyé un courrier, je ne l'ai pas récupéré, je ne l'ai pas reçu, mais il y avait des problèmes de...
Madame, il y a deux choses. Ne pas récupérer un courrier si c'est envoyé en recommandé, c'est de votre responsabilité. Vous voyez,
reçu l'avis de passage du tout.
Ah voilà, après ça, c'est autre chose. Mais souvent, on me dit, je n'ai pas récupéré le recommandé. Si on ne le récupère pas, ça ne change rien.
Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas reçu l'avis de passage. J'étais à la poste. Et ils ont fait le recherche et tout ça. Ils m'ont dit, oui, effectivement, il y avait faute d'adresse. Donc, ils ont marqué ça sur mon dossier. Et ils savent, l'assurance, que le courrier il est retourné. Et après, maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'aurais dit, il faut qu'on trouve une solution. Moi, je ne peux pas. Et là, les frais de gardiennage, ils montent. C'est 15 euros tous les jours.
Ah, vous savez, au bout d'un moment, si ça revient plus cher que la valeur de votre véhicule...
De la voiture, exactement.
Voilà, donc il vaut mieux leur dire, écoutez, gardez la voiture et au revoir. Après, c'est à vous...
Même garder la voiture, le garage, ils ne veulent pas. Ils disent qu'il faut absolument payer déjà les frais de gardiennage. Après,
Ils engageront, comme dirait l'autre, peut-être des procédures. Mais là, ça me semble, de ce que vous me dites en tout cas, mal parti à l'égard de la compagnie d'assurance.
Oui, alors l'assurance, on ne peut rien faire contre l'assurance.
L'assurance fait son boulot. C'est-à-dire qu'on on vous dit qu'il y a des frais de gardiennage et puis on vous envoie un courrier. Vous me dites que effectivement, on vérifie, ça a bien été envoyé en recommandé. Il faudrait démontrer qu'il y a une erreur d'adresse, par exemple, pour que l'assurance soit considérée comme fautive. Mais si le courrier en recommandé a bien été envoyé à votre adresse et si pour des raisons lambda, vous n'avez pas récupéré ce courrier, l'assurance n'y est pour rien, elle a fait son boulot.
Oui, mais bon, moi, ce que je reproche à l'assurance aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai pas reçu le courrier. Ils ont mon adresse, ils ont mon numéro de téléphone. J'ai dit, vous aurez pu me contacter, me dire voilà.
D'accord, mais vous m'avez dit que vous aviez été à la poste pour vérifier. Et on vous a dit qu'effectivement, c'était parti.
Exactement. Non, mais je me suis retournée contre l'assurance. Je leur ai dit, voilà, j'ai pas reçu votre courrier. Donc, voilà, moi, j'ai. Comment vous voulez. Que je fasse aujourd'hui.
Mais est-ce qu'ils vous l'ont envoyé en recommandé ou pas? C'est ça la question.
Pardon?
Le courrier, le courrier de la compagnie d'assurance. Est-ce que l'assurance vous l'a envoyé en courrier recommandé?
Oui, ils l'ont envoyé courrier, avec accusé de réception. Alors, rien reçu.
Voilà. Alors, mais vous n'avez pas reçu quoi? C'est-à-dire, vous n'avez pas été chercher le courrier ou vous vous dites, mais je n'ai même pas le petit papier qui me permet d'aller chercher
le
courrier?
Il n'y a pas eu l'avis de passage.
Il n'y a pas eu l'avis de passage.
Dans ce cas-là, il faudrait s'assurer que l'adresse de votre compagnie d'assurance, enfin que la compagnie d'assurance a noté, est bien la vôtre. Mais si c'est le cas, c'est même plus la responsabilité de la compagnie d'assurance et qu'il y a une erreur au niveau de la poste. Vous voyez, si la compagnie d'assurance dit, mais attendez, nous on vous l'a envoyé à la bonne adresse, pour eux, c'est carré.
Ouais.
Voilà. Mais bon, il y a encore des ça à investiguer, voir que c'est la bonne adresse.
Ouais.
Alors, prenez le numéro de Maître Serran, Sabrina, que vous avez peut-être, comme ça, tout le monde va le noter en même temps que vous allez le faire. Allez-y, Maître Serran.
Alors, joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, Sabrina. Alors, on va prendre d'autres appels dans un instant. Vous avez une question juridique à poser à Maître Serran, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Heure FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Maître Mourad Serran qui répond à vos questions juridiques le samedi entre 9h et 10h. On a Mohamed qui est avec nous, Maître Serran. Mohamed, bienvenue.
Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Mohamed.
Bonjour, Mohamed.
En fait, je vous appelle aujourd'hui suite à d'une demande de nationalité. Moi, je disais que j'étais marié avec une Française. La loi dit qu'il faut avoir 4 ans de mariage pour déposer une demande de nationalité. En fait, j'ai déposé ma demande, j'avais 3 ans et 11 mois. Et donc, j'ai attendu pendant un an et quelques pour avoir une réponse de la préfecture. Je reçois un refus, en fait. Pourtant, au moment du refus, j'avais presque 5 ans. Et donc, on m'a demandé de faire un recours à travers le tribunal des grandes instances de Montreuil. Donc, c'est pas un recours simple, quoi.
Alors, si c'est Montreuil, dans ce type de procédure, c'est le tribunal administratif. Mais le délai, monsieur, parce que vous dites, au moment où ils m'ont répondu, j'avais déjà 5 ans. En fait, vous interprétez mal la chose, c'est-à-dire qu'il faut déjà réunir ces conditions de délai au moment où vous déposez le dossier.
D'accord.
Oui, c'est pour ça. Donc, quand ils vous répondent ça, ils n'ont pas tort dans l'absolu.
Enfin, maintenant, 3 ans et 11 mois.
Non, bon. Mais bien sûr. Mais ouais. C'est justement, il faut encore attendre un petit mois supplémentaire et ça passe tranquille. Vous êtes toujours avec madame, là ?
Ça fait un an que je suis plus avec elle, on est déjà divorcé. Voilà, donc moi j'aimerais savoir. Et on m'a demandé de faire un avocat. Moi j'avais pas les moyens pour payer un avocat. Du coup, j'ai pas pris de recours à le tribunal des grandes instances. Quand l'avocate, elle m'a dit que ça va durer plus que 24 mois parce que c'est pas un recours simple. J'ai laissé tomber. D'accord. Et voilà, mais le jour d'aujourd'hui, je souhaite en fait avoir des renseignements si possible.
Ah, monsieur,
est-ce que tu peux faire un recours ou...
Non, quels que soient les recours, soit devant ce qu'on appelle l'ancien tribunal de grande instance qui s'appelle aujourd'hui le tribunal judiciaire, soit devant le tribunal administratif, vous avez toujours des délais pour faire des recours. Si ces délais n'ont pas été respectés, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours possible. Donc la seule option...
Et vous, ils m'ont dit, vous avez 6 mois pour faire le recours, quoi.
D'accord, mais vous
m'avez... Je n'ai pas fait de recours.
Voilà, donc si vous n'avez pas fait de recours, monsieur... En fait, quand on ne fait pas de recours, ça veut dire qu'on accepte la décision. Vous voyez, si l'administration vous dit, monsieur, vous avez tort, et on vous dit, vous avez tel délai pour contester, que vous ne contestez pas dans ce délai, on considère que la personne a accepté la décision. Donc, si on est hors délai, il n'y a plus de possibilité de faire le moindre recours. La seule option, ce serait de redéposer un dossier, alors peut-être sur un autre fondement, c'est-à-dire une autre raison pour dire, écoutez, je sollicite la nationalité française, mais ce dossier-là, il est définitivement terminé.
D'accord. Donc, il y a une possibilité de redéposer un dossier, non ?
Ah non, mais ça, vous pouvez. Il y a pas, la porte n'est pas fermée. Vous pouvez redéposer un nouveau dossier. Mais ce dossier-là, il est fini.
Parce que je vous ai entendu parler. Pourquoi ? Vous avez dit, en fait, à une dame que même si maintenant, je vous fais une demande, je vais avoir un refus. Je n'ai pas fait le recours de la première demande.
Non. Si vous ne contestez pas dans les délais le premier refus, c'est terminé. Le dossier, il est classé. Maintenant, vous pouvez toujours redéposer un dossier, puisque vous avez peut-être des éléments nouveaux et particuliers. Ça, c'est pas interdit.
Donc il a le droit de refaire une demande. Voilà Mohamed, merci pour votre appel. C'est Salia qui est avec nous. Salia, bienvenue.
Oui, bonjour Maître Serran.
Bonjour Salia.
Bonjour, moi je vous appelle, c'est à propos de ma mère. C'est pour essayer de voir comment régulariser sa situation. En fait, ma mère est d'origine algérienne. Elle est venue en France avec un visa touristique comme elle vient régulièrement. Sauf que la dernière fois, elle était malheureusement restée coincée ici suite au Covid. Elle s'est retrouvée confinée. Et c'est donc sa dernière entrée en France, elle date de décembre 2019. Mmh. Et depuis, donc, étant âgée de 80 ans, elle a eu quelques soucis de santé et depuis, donc, elle est restée avec nous ici en France. Et on voudrait savoir, y a-t-il un moyen de régulariser sa situation ? Sachant que ma mère est le propriétaire de son appartement ici à Paris et qu'elle a suffisamment de ressources.
Alors, il y a une règle, parce que souvent, on me dit qu'effectivement, la personne est propriétaire. Il faut savoir qu'il ne suffit pas, évidemment, d'être propriétaire d'un bien pour que les autorités françaises vous disent pas de difficulté. Voilà, hein, donc il faut faire attention à cet aspect-là. Alors, c'est un petit plus, mais en soi, c'est pas suffisant. Vous avez vous-même compris la situation, c'est-à-dire qu'une personne qui vient sur le territoire français, entre guillemets, en qualité de touriste, on considère que cette personne doit repartir. Donc ça, c'est la règle.
Oui, mais entre-temps, il y a eu le Covid. Donc,
il peut y avoir le Covid, mais après, là encore, sauf cette période très particulière, on considère qu'une fois qu'officiellement les frontières sont déclarées ouvertes, les personnes doivent retourner au pays. Donc ça, c'est la règle et c'est le principe, juste pour vous dire que la loi est plutôt du côté, pour l'instant, de l'administration. Maintenant, compte tenu de la situation, compte tenu notamment de l'âge de votre maman, et du fait, alors il faudra démontrer aussi qu'il n'y a plus personne au pays. Alors je ne sais pas si votre père est décédé. Bon, il y a de la famille encore au pays en dehors.
À vrai dire, j'ai encore deux frères là-bas, mais là-bas aussi, elle vivait toute seule. Hein.
Alors, vous voyez, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que les autorités françaises, même si vous invoquez l'argument en disant, écoutez, c'est une personne qui est âgée, c'est une personne qui a aussi, par définition, parfois une santé fragile. Donc, seule au pays, s'il lui arrive quoi que ce soit, personne ne pourra intervenir. La première question qui sera posée par les autorités préfectorales, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des membres de la famille ? Donc, le fait qu'il y ait deux frères là-bas, ça poserait quand même déjà une difficulté. Vous voyez, en règle générale, ce type de dossier avance sans problème quand il n'y a plus personne au pays, qu'on soit en France ou ailleurs. Donc là, c'est entre guillemets jouable sans problème. Là, c'est un argument qui pourrait être avancé par les autorités préfectorales, mais il faudrait le démontrer, à démontrer que les enfants sont des enfants indignes, qu'ils ont rejeté leur mère, qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Vous voyez, mais on entre déjà dans une autre catégorie. Donc, il faudrait démontrer ça. C'est pas évident.
Oui.
Et ensuite, il faut, mais j'imagine, aller loger chez vous.
Oui.
Il y a de la place.
En fait, c'est moi qui suis logée chez elle. Je suis dans son appartement.
Alors, vous êtes mariée, vous avez des enfants?
Non, moi je suis célibataire sans enfants, mais j'ai deux autres sœurs qui sont ici en France, dont l'une est mariée avec des enfants.
Alors, ce serait bien, dans ce cas-là, d'impliquer, si tant est que ce soit possible, les autres sœurs pour dire que votre maman sera, même si vous me dites que financièrement, elle peut subvenir à ses besoins, mais c'est toujours intéressant d'impliquer les enfants pour dire qu'elle sera prise en charge par ses enfants. Mais, je vous dis, l'inconvénient, là, en tout cas, la difficulté dans ce dossier, c'est qu'il y a encore, en tout cas, vous avez deux frères qui sont au pays. Voilà, et on considère, en tout cas prioritairement, que ce sont les personnes du pays qui doivent s'occuper du ou des parents. Mais il faut quand même saisir les autorités préfectorales, parce que si demain il y a quoi que ce soit, qu'on ne vous le reproche pas en disant, attendez, votre mère est ici depuis X temps, vous me dites aujourd'hui que vous souhaitez qu'elle reste, mais vous n'avez encore rien fait. Donc il faut quand même saisir les autorités préfectorales.
De quelle façon ?
Alors, ça se saisit. Alors, en principe, vous allez sur le site de la préfecture du lieu de domicile pour essayer d'avoir un rendez-vous qu'on ne vous accorde jamais. Vous verrez, c'est toujours saturé. Donc, quand c'est comme ça, vous faites des copies d'écran. Et quand vous avez 4-5 rendez-vous avec la même réponse en disant « il n'y a pas de place », vous êtes autorisé à saisir les autorités préfectorales par écrit. Et si au bout de 4 mois, la préfecture n'a pas répondu, on parle d'un refus implicite. Ça veut dire qu'ensuite, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Et c'est le tribunal qui rendra sa décision.
D'accord.
Est-ce que c'est bien clair pour vous, Thalia ?
Je pense.
Bon. Mais c'est quand même jouable, Maître Serran.
Oui, bien sûr. Bah, compte tenu notamment de l'âge de sa maman, compte tenu du fait qu'il y a 3 sœurs qui peuvent s'engager à la prendre en charge. Donc, oui, voilà. Vous savez, quand il arrive parfois que des dossiers soient, comme on dit, injouables, quand c'est injouable, on le dit tout de suite. On dit, écoutez, ça ne sert à rien d'insister. Donc là, oui, c'est jouable. Je ne dis pas que ça va être simple. Ça devrait même se terminer, a priori, plutôt devant un tribunal que devant les autorités préfectorales. Mais c'est jouable.
D'accord. Parce qu'on m'a souvent conseillé de voir plutôt un avocat, d'entamer les démarches d'emblée avec un avocat.
L'avocat, en la matière, n'est pas obligatoire. Je le dis tout le temps, c'est fortement conseillé, puisque par définition, c'est son domaine, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, bien sûr, l'avocat, c'est exactement ce qu'il doit faire, que ce soit devant les autorités préfectorales ou devant le tribunal administratif.
D'accord.
Moi, je connais un bon avocat, Salia Soulé, à Saint-Ouen. Il a une petite veste en daim.
Ouais.
En tweed.
En tweed. Et une casquette. Salia, si vous voulez.
Facilement reconnaissable.
Spécialiste du droit des étrangers. Donc, on fait un gros bisou au Salia. Je vois
embrasse, Salia.
Je vois que vous cherchez, et c'est normal, c'est pas évident, comme avec des indices tels qu'on les donne, Maître Serran. Bon, en parlant de pas évident, dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun sera là. Voilà, pour l'islam au présent, Tarek, un commentaire
Écoutez, je trouvais que c'était une émission fort sympathique. Maître Serran est vraiment sympa. Et oui, vraiment, j'aime beaucoup.
Bah écoutez, on partage. Je crois qu'on a le même humour peut-être avec Tarek.
On partage la même passion pour l'hygiène. Et ça,
voilà.
C'est important.
Et ça, c'est important.
Ouais. L'hygiène, c'est la base. Bon, bien, allez, l'imam Abdelali Mamoun sera là dans un instant et on va parler de la foi, comment entretenir sa foi ce matin avec l'imam Abdelali.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.